Chapitre 87. Le soleil venait de se lever et 50 000 voïniks attaquaient de toutes parts. Ada observa une pause pour jeter un regard dans la fosse où gisaient les restes déchiquetés du rejeton de cet ébos. Daeman lui effleura le bras. « Ne t'en fais pas pour ça. On aurait dû le tuer tôt ou tard. » Elle secoua la tête.
« Je ne regrette rien. »
Se tournant vers Anna et Gréogie, elle lança
« Faites décoller la chaloupe !»
Trop tard. La rumeur des Voynichs avait déjà plongé plus de la moitié des survivants dans la panique. Les créatures demeuraient invisibles, mais elles avaient sans doute franchi la moitié de la distance laissée par Andardis. Elles seraient là dans moins d'une minute.
« Non ! Non !»
s'écria Ada. Plus d'une trentaine de personnes se disputaient une place à bord de la chaloupe. Anna, qui avait pris les commandes, s'efforçait de la maintenir un mètre au-dessus du sol, mais sa charge utile ne faisait que croître.
« Décolle !»
hurla Daeman.
« Anna, décolle, vite !»
Trop tard. Poussant un geignement déchirant, la machine volante gita sur la droite et s'effondra sur l'herbe, projetant autour d'elle quantité de ses passagers. Ada et Daeman coururent dans sa direction. Anna leur adressa un regard navré.
« Elle ne démarre plus. Il y a quelque chose de cassé.
Peu importe, fit Ada d'une voix posée.
De toute façon, elle ne serait jamais arrivée jusqu'à l'île.
Elle posa sur la main d'Anna une main rassurante, puis se retourna et cria
« Tout le monde à la palissade! Et vite! Prenez toutes les armes de notre arsenal! Nous devons repousser leur première charge! C'est notre seule chance !»
Joignant le geste à la parole, elle courut vers le mur ouest et en moins d'une minute, tous les autres en firent autant, se répartissant de façon uniforme sur le pourtour de la palissade. À l'instar d'Ada, tous étaient armés de deux fusils à fléchettes et d'une arbalète et portaient en outre un lourd sac de munitions. Ada s'installa à une meurtrière et remarqua que Daeman était toujours à ses côtés.
« Bien, » fit-il. Elle lui répondit d'un signe de tête, bien qu'elle ne comprît pas ce qu'il voulait lui dire.
Procédant par gestes mesurés, parfaitement calme, Ada inséra un chargeur dans son fusil, en débloqua le cran de sûreté et visa la lisière de la forêt distante de 200 mètres à peine. La rumeur bruissante et cliquetante des Voynichs gagna peu à peu en volume et en intensité, et Ada résista à une violente envie de se plaquer les mains sur les oreilles. Son cœur battait à tout rompre. Elle sentait monter en elle une nausée digne des premiers temps de sa grossesse. Mais elle n'avait pas peur. Pas encore.
« Toutes ces années d'épopée du Turin, »
dit-elle sans se rendre compte qu'elle pensait à haute voix. « Hein ?» fit Daeman en se rapprochant. Elle secoua la tête.
« Je pensais à l'épopée du Turin. » D'après Arman, c'était une idée d'Odysseus et de sa vie. Distribuer des Turins parmi nous il y a 10 ans de cela, je veux dire. Peut-être qu'il souhaitait nous apprendre à mourir avec courage.
J'aurais préféré qu'il nous apprenne à vaincre une armée de 50 000 Voynichs,
rétorqua Daeman en armant son fusil. Ada s'esclaffa. Son rire fut étouffé par le rugissement des Voynichs qui surgissaient de la forêt, tantôt courant, tantôt sautant depuis les branches des arbres, telle une déferlante de carapaces grises et de griffes étincelantes fondant sur eux à 100 km à l'heure. Ils étaient si nombreux au sein de cette masse grouillante qu'Ada parvenait à peine à les distinguer les uns des autres. Elle jeta un regard par-dessus son épaule et vit que cette vision de cauchemar se répétait tout autour de l'enclos, des dizaines de milliers de Voynichs en train de refermer un cercle de mort. Personne ne cria « feu », mais tout le monde tira. En proie à une terreur féroce, Ada se sentit sourire de toutes ses dents lorsque le premier chargeur se vida, lui faisant vibrer l'épaule. Elle le délogea, en inséra un nouveau. Les fléchettes frappaient les créatures par milliers, et leurs facettes cristallines étincelaient sous la lueur de l'aube, mais cela ne faisait apparemment aucune différence. Quelques Voynichs tombaient sans doute, mais ils étaient tellement nombreux à bondir, à courir, à ramper, à grouiller, qu'Ada ne voyait même pas les morts et les blessés. La muraille de mort grise avait parcouru en quelques secondes la distance séparant la forêt de la palissade, et elle frapperait celle-ci dans quelques instants à peine. Daeman fut sans doute le premier à foncer. Ada n'aurait pu en juger, car cette décision sembla aussi unanime que simultanée. Empoignant son arme et poussant un hurlement, il se redressa d'un bond,
sauta à bas de la palissade, se reçut en roulant sur lui-même, se releva et courut vers les Voynix. Ada riait et pleurait en même temps. Soudain, il était d'une importance vitale qu'elle prenne part à cette sortie. Plus rien n'apportait à ses yeux, excepté mourir en affrontant cet ennemi stupide, vicieux, programmé pour le meurtre, plutôt que d'attendre la mort en tremblant derrière un paravent de bois. Faisant montre d'une absurde prudence, car elle n'oubliait pas qu'elle était enceinte de 5 mois, Ada sauta sur l'herbe, roula sur elle-même, se releva et suivit Daeman en courant, ouvrant le feu en même temps. Entendant sur sa gauche une voix familière, elle se retourna et aperçut Anna et Edith qui la suivaient de près, qui stoppaient pour tirer une rafale, qui se remettaient à courir. Elle distinguait à présent la bosse de chaque Voynix. Chaque bond les rapprochait de 7 ou 8 mètres. Ils tendaient vers elle leurs lames meurtrières. Ada courut, tira. Elle ne savait plus ce qu'elle hurlait, quels mots pouvaient bien franchir ses lèvres. L'espace d'un instant, d'un bref instant, elle visualisa le visage d'Arman et tenta de lui lancer un message. « Je suis navrée, mon chéri. Navrée pour le bébé. » Puis elle se concentra sur ses pieds, sur son arme, et les formes grises étaient presque sur eux, se dressaient au-dessus d'eux comme une marée gris-argent. Les explosions projetèrent Ada sur une longueur de 3 mètres et lui roussirent les sourcils. Des hommes et des femmes gisaient un peu partout, cloués au sol tout comme elle, trop choqués pour crier ou seulement se lever. Certains tentaient d'éteindre les flammèches courant sur leurs vêtements, d'autres avaient sombré dans l'inconscience. L'enclos d'Ardis était encerclé par une muraille de flammes haute de 20, 30 mètres. Une deuxième vague de Voynix fit son apparition, franchissant d'un bond le rideau de feu. De nouvelles explosions dévastèrent leur rang. Sous les yeux d'une Ada stupéfaite, griffes et carapaces grises, pattes et bosses jaillirent dans tous les sens. Puis Daeman l'aida à se relever. Il avait le souffle court, le visage marbré de cloques.
« Ada, il faut retourner dans le... »
Ada se dégagea et fixa le ciel. 5 machines volantes venaient d'apparaître au-dessus de leur tête et aucune d'elles n'était un Sony. 4 appareils de petite taille, dont la forme rappelait une chauve-souris, larguaient des bombes sur la forêt, tandis qu'un 5e, beaucoup plus grand, descendait vers le centre de l'enclos. La palissade qui protégeait celui-ci n'avait pas résisté au souffle des explosions. Soudain, des câbles jaillirent des petits appareils, et des créatures humanoïdes mais non humaines se laissèrent glisser jusqu'au sol, se déployant avec une incroyable vivacité pour établir un périmètre défensif. Lorsque certaines d'entre elles passèrent à portée de vue, Ada confirma cette impression, car on aurait pu croire à des guerriers en armure, en découvrant leur haute taille, leurs étranges articulations et les épines et les barbelures dont étaient hérissées leurs carapaces chitineuses. De nouveaux Voynix surgirent à travers les flammes. Les êtres noirs avaient mis un genou à terre et levé des armes bien trop lourdes pour qu'un être humain puisse les manipuler. Le bruit qu'elles firent en se déclenchant évoquait celui d'une tronçonneuse électrique et leurs éclairs d'énergie bleutée ravagèrent les rangs des Voynix. Chaque fois que l'un de ceux-ci était atteint, il explosait en 1000 morceaux. Daeman la tirait en direction de l'enclos.
« Quoi ?» hurla-t-elle. « Qu'y a-t-il ?»
Il secoua la tête. Soit il ne pouvait pas l'entendre, soit il ne pouvait pas lui répondre. Une nouvelle série d'explosions projeta les humains à terre. Cette fois-ci, les champignons de feu s'élevèrent à une hauteur de 100 mètres dans l'air froid du matin. Tous les arbres situés à l'est et à l'ouest étaient en feu. Les Voynix arrivaient toujours. Les soldats noirs et chitineux les fauchaient par vingtaines, par centaines. Puis l'un de ces êtres noirs se dressa au-dessus d'Ada. Il tendit dans sa direction un long bras barbelé qui s'achevait par une main couverte de griffes noires.
« Ada Our, » dit-il d'une calme voix de basse, « je suis le centurion en chef Mep Ahu. Votre époux a besoin de vous. Nous allons vous escorter jusqu'à l'enclos. »
L'appareil le plus gros avait atterri près de la fosse. Sa taille était telle qu'il avait achevé de renverser la palissade. Il reposait sur de grands pieds aux multiples articulations et de grandes portes s'étaient ouvertes dans son ventre. Arman gisait sur une civière à même le sol, entouré par des créatures fort dissemblables. Sans leur prêter attention, Ada se précipita vers lui.
La tête de son bien-aimé reposait sur un oreiller et son corps était dissimulé par une couverture, mais Ada se mordit les phalanges pour ne pas hurler en le découvrant. Il avait le visage ravagé, les joues creusées, les gencives édentées. Des larmes de sang coulaient de ses yeux. Ses lèvres étaient tellement gercées qu'on les aurait crues mordues au sang. Sur ses bras posés au-dessus de la couverture, elle vit des marbrures de sang sous la peau, une peau qui semblait s'écailler comme sous l'effet d'un monstrueux coup de soleil. Daeman, Anna, Gréogi et quelques autres se pressaient autour d'elle. Elle prit la main d'Arman, le sentit réagir d'un rien comme elle la serrait. Le mourant tenta de tourner vers elle ses yeux mangés de cataractes, tenta de prononcer un mot. Il ne réussit qu'à cracher du sang. Une petite silhouette humanoïde caparaçonnée de métal et de plastique rouge et noir s'adressa à elle.
« Vous êtes Ada ?»«
Oui. »
Elle ne daigna pas se tourner vers cet enfant machine. Elle n'avait Dieu que pour Arman.
« Il a réussi à prononcer votre nom et à nous donner les coordonnées de cet endroit. Nous sommes navrés de ne pas l'avoir retrouvé plus tôt. Que ?»
Elle n'alla pas plus loin, ne sachant même pas quelle question elle devait poser. L'une des machines qui l'entourait était gigantesque. Elle manipulait avec une infinie délicatesse une bouteille reliée par intraveineuse à l'un des bras émaciés d'Arman.
« Il a reçu une dose létale de radiation, »
reprit la petite machine d'une voix douce.
« Presque certainement dans un sous-marin qu'il a approché dans la brèche atlantique. »
« Un sous-marin ?» songea Ada. Ce mot ne signifiait rien pour elle.
Un autre grand regret, nous ne disposons pas des installations médicales appropriées pour un être humain dans son état,
poursuivit la petite machine.
Nous avons contacté la reine Mab en découvrant la gravité de votre situation, et les frelons qu'elle a dépêchés ici contiennent des antalgiques et autres perfusions. Mais rien qui puisse traiter l'exposition aux radiations.
Ada ne comprenait rien à ce que disait ce petit être. Elle serra la main d'Arman dans les siennes et le sentit partir. Arman toussa, visiblement incapable de prononcer un mot, toussa encore et encore, et tenta de retirer sa main. Ada s'accrocha à lui, mais il persistait à vouloir se dégager. Elle comprit qu'elle devait lui faire mal à force de le serrer. Elle lâcha.
« Pardon, mon amour !»
De nouvelles explosions retentirent derrière eux, un peu plus éloignées que les précédentes. Les machines en forme de chauve-souris survolaient à présent la forêt, et partout résonnait le bruit de leurs armes redoutables. Les soldats noirs à l'armure chitineuse couraient un peu partout dans l'enclos, certains s'affairant à soigner les blessés, qui souffraient en majorité de brûlures superficielles. Arman ne retira pas sa main, mais la tendit vers le visage d'Ada. Elle voulut la saisir à nouveau, mais il l'en empêcha de son autre main. Docile, elle se laissa caresser sur la joue, sur le cou, puis il lui plaqua sa main sur le front, mobilisant ses ultimes ressources comme pour la fondre dans son crâne, se tendit vers elle avec l'énergie du désespoir. Avant qu'elle ait eu le temps de songer à s'écarter, tout avait commencé. Rien. Même pas l'explosion qui venait de la jeter à terre ne l'avait jamais secouée comme ceci. D'abord, il y eut la voix d'Arman, claire et nette. « Tout va bien, mon amour, ma chérie. Détends-toi. Tout va bien. Je dois t'apporter ce don pendant que je le puis. » Et tout disparut autour d'elle, hormis la main meurtrie, les doigts sanguinolents de son bien-aimé, qui déversait en elle un flot d'images, dans son être tout entier et pas seulement dans son esprit, des mots, des souvenirs, des images, des données, encore des souvenirs, des fonctions, des citations, des livres par volume entier, d'autres livres encore et d'autres souvenirs, son amour pour elle, les pensées qu'il leur avait consacrées, à elle et à leur enfant, son amour, encore des informations et des voix, et des noms, et des dates, et des pensées, et des faits, et des idées, et... Ada ? Ada ? À genoux auprès d'elle, Tom lui aspergeait le visage tout en la giflant tout doucement. Anna, Daeman et les autres se tenaient tout près. Arman l'avait lâché. La petite machine de plastique et de métal continuait de s'agiter à son chevet, mais son amour semblait bien mort.
Ada se leva.
Bayman, Anna, venez ici. Approchez-vous.
Hein ?
Fit Anna. Ada secoua la tête. Pas le temps d'expliquer, pas le temps de rien faire excepté partager.
Faites-moi confiance, dit-elle.
Elle tendit ses deux mains, plaqua la gauche sur le front de Daeman, la droite sur celui d'Anna, et activa la fonction partage. Cela ne prit pas plus de 30 secondes, le temps qu'il avait fallu à Arman pour partager avec elle les fonctions et les données essentielles, des données qu'il avait ordonnées en vue de cette transmission durant tout le temps passé dans la brèche. Mais ces 30 secondes lui parurent durer 30 éternités. Si Ada avait pu se débrouiller seule, elle n'aurait pas perdu ce temps, même si le sort de l'espèce humaine en avait dépendu, mais elle avait besoin d'aide pour la suite. Il lui fallait une personne pour poursuivre le partage et une autre pour l'aider à sauver Arman. C'était fait. Tous trois, Ada, Daeman, Anna, tombèrent à genoux, les yeux clos.
« Que se passe-t-il »
demanda Cyrus. Quelqu'un arriva dans l'enclos en criant. C'était l'un des volontaires de garde au pavillon Fax. Le nœud Fax s'était remis à fonctionner. Alors que les Voynix allaient les submerger, le nœud Fax s'était réactivé, s'exclama le messager.
Pas le temps de passer par le fax, songea Ada.
Aucune communauté connue ne lui serait utile. Elles étaient toutes en état de siège, voire déjà conquises. Ce n'était pas un code connu qui lui apporterait le salut de son bien-aimé. La gigantesque créature, qui ressemblait à une limule métallique, prit la parole d'une voix évoquant un grondement.
Il y a des cuves de rajeunissement en orbite, déclara-t-elle. Mais les seuls dont nous pouvons confirmer l'existence se trouvent sur l'astéroïde orbital de Sycorax qui vient de franchir l'orbite lunaire à plein régime. Malheureusement, nous n'en connaissons aucune.
C'est sans importance,
coupa Ada en s'agenouillant de nouveau près d'Arman. Elle lui palpa le bras. Il n'eut aucune réaction, mais elle percevait des bribes de vie en lui. Sa toute nouvelle fonction biométrique était ouverte. Elle cherchait désespérément à faire le tri des destinations accessibles par libre fax, sans parler de la procédure elle-même. Les dépôts post-humains du bassin méditerranéen, il s'y trouvait des appareils susceptibles de traiter l'irradiation, mais ils étaient scellés par une stase et, ainsi que le lui apprit le moniteur Allnet, les mains d'Hercule disparaissaient peu à peu. Le bassin se remplissait. La mer Méditerranée revenait à la vie. Elle aurait besoin de machines, de sous-marins, pour accéder à ces dépôts. Trop long. Il en existait d'autres, dans la steppe chinoise, près de la vallée sèche, dans l'Antarctique, mais ce serait trop long d'aller là-bas, et les procédures médicales étaient trop complexes. Arman ne survivrait pas assez longtemps pour que... Ada agrippa le bras de Daeman, le força à s'agenouiller à ses côtés. Il semblait étourdi, pris de vertige.
Toutes ces nouvelles fonctions ?
Ada le secoua sans ménagement.
Répète-moi ce qu'a dit le fantôme de Moira.
Hein ? Fit-il les yeux dans le vide.
« Daeman, répète-moi ce que t'a dit le fantôme de Moira le jour où nous avons voté pour prêter le Sony à personne. Rappelle-toi que... Et la suite ? Parle !»
Elle a dit... « Rappelle-toi que le cercueil de personne n'était le cercueil de personne. Qu'est-ce que...
Personne sans majuscule ! Le cercueil de personne n'était le cercueil de personne ! Anna !» Tu es resté sur place au Golden Gate à Machu Picchu pendant qu'Odysseus se faisait soigner dans son sarcophage. Tu connais le Golden Gate mieux que personne. Veux-tu venir avec moi? Veux-tu tenter le coup?
Il ne fallut qu'une seconde à Anna pour comprendre ce que son ami lui demandait.
Oui,
dit-elle. Ada devait lutter non seulement contre le temps, mais aussi contre la mort, qui était déjà parmi eux et refermait sur Arman ses griffes acérées.
Daeman! Procède au partage avec tout le monde, vite!
Oui,
dit Daeman. Déjà, il s'empressait d'appeler à lui tous ses amis. Les soldats morts avec, Ada les connaissait déjà par leur forme, sinon par leur nom, continuaient de tirer, de tuer les Voynix. Aucun de ceux-ci n'était arrivé jusqu'aux humains.
Anna, dit-elle, nous aurons besoin de la civière, mais au cas où elle ne passerait pas par Librefax, prends la couverture d'Arman, nous l'utiliserons si nécessaire.
S'exclama le petit Moravec européen lorsqu'Anna découvrit vivement le patient mourant.
« Il a besoin de ça ! Il frissonne tellement que... »
Ada posa une main sur le bras du Moravec, perçut son humanité, l'âme qu'il habitait sous le métal et le plastique.
« Tout va bien, » lui dit-elle.
Elle dénicha son nom au cœur de sa mémoire cybernétique.
« Tout va bien, Manmut, mon ami. Nous savons ce que nous faisons. Après tout ce temps, nous savons enfin ce que nous faisons. »
Elle fit signe aux autres de s'écarter. Anna s'agenouilla d'un côté de la civière, posa une main sur l'épaule d'Ada, l'autre agrippant à un brancard métallique. Ada l'imita.
« Je pense qu'il nous suffit de visualiser la salle principale, celle où nous avons rencontré Odysseus pour la première fois, pour que les coordonnées nous apparaissent, »
dit Ada.
« Nous y sommes déjà allés toutes les deux, c'est cela qui importe. »«
Oui, »
fit Anna.
« À trois, d'accord ? Un, deux, trois !»
Les deux femmes, la civière et Arman, disparurent. Arman ne semblait plus peser grand-chose, mais les deux femmes durent faire appel à toutes leurs forces pour le transporter sur sa civière, depuis la salle de musée du Golden Gate à Machu Picchu jusqu'à la crypte d'Odysseus Personne, empruntant quantité d'escaliers et passant sans s'arrêter devant la cryocrèche de sa vie. La paume d'Ada ne trouva que d'infimes traces de vie lorsqu'elle la posa sur le torse ravagé de son bien-aimé, mais elle ne perdit pas de temps à affiner ses recherches.
« À trois, encore une fois, d'accord ?»
halta-t-elle. Anna opina.
« Un, deux, trois !»
Avec une douceur infinie, elles soulevèrent Arman pour placer son corps nu dans le cercueil de Personne. Anna referma le couvercle dans un claquement sec.
« Comment fait-on pour ?»
commença Ada, prise de panique. Elle aurait pu interroger toutes les machines de cette salle, ses fonctions le lui affirmaient, mais cela aurait pris trop de temps.
« Ici !»
dit Anna.
« Personne m'a montré comment procéder à son réveil. »
Ses doigts de sculptrice pianotèrent sur des boutons virtuels. Ses fonctions d'humaine à l'ancienne entrèrent en interface avec les contrôles de la crèche. Le cercueil poussa un soupir et se mit à bourdonner. Une brume se diffusa dans l'habitacle depuis des évents invisibles, occultant le corps d'Arman. Des cristaux de glace se formèrent sous le couvercle. Des voyants s'allumèrent. L'un d'eux était rouge.
Oh !
Fit Anna d'une petite voix.
Non,
dit Ada. Calme, mais pleine de fermeté.
Non. Non. Non.
Elle plaqua la paume de sa main sur le panneau de contrôle du cercueil, comme pour raisonner avec son IA. Le voyant rouge clignota, passa à l'orange, repassa au rouge.
Non,
répéta Ada. Le voyant rouge vacilla, s'étiola, vira à l'orange et resta orange. Les doigts des deux amis s'entrelacèrent brièvement au-dessus du cercueil. Puis Ada reposa sa main sur le cadran bombé de l'IA. Le voyant orangé ne bougea plus. Des heures plus tard, alors que les nuages envahissaient les ruines du Machu Picchu, puis la chaussée du pont suspendu 200 mètres en contrebas, Ada lança
« Anna, retourne à Ardis. Va manger un peu. Repose-toi. »
Anna fit non de la tête. Ada sourit.
Alors va faire un tour à la salle à manger et rapporte-nous des fruits ou quelque chose comme ça. Et de l'eau.
Le voyant resta orange jusqu'au coucher du soleil. Peu après, alors que les vallées andines n'étaient plus éclairées que par l'albédo des neiges, Daemon, Tom et Cyrus vinrent leur rendre visite, mais ils ne restèrent que quelques instants.
Nous avons déjà contacté 30 communautés,
dit Daemon à Ada. Elle acquiesça, mais ses yeux restèrent rivés au voyant orangé. Leurs visiteurs repartirent en promettant de revenir le lendemain matin. Anna s'enveloppa dans la couverture et s'endormit à même le sol tout près du cercueil. Ada resta éveillée, tantôt à genoux, tantôt assise, la main collée au panneau de contrôle du cercueil, transmettant sa présence et ses prières par l'intermédiaire des circuits qui la séparaient d'Arman, sans quitter des yeux un seul instant le voyant orangé. Peu après 3 heures du matin, heure locale, le voyant passa au vert.